bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La production et la consommation de drogue s'intensifient en Europe. L'Observatoire des drogues le constate et s'en inquiète. Recrudescence de la cocaïne pure, notamment, nous vous expliquons pourquoi. Dans ce journal aussi, zoom sur l'élection des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Un vote existe tous les 2 ans, il a lieu aujourd'hui. L'Allemagne et la Belgique notamment devraient siéger. Ford fermera l'usine de Blanquefort en Gironde si le constructeur américain ne trouve pas d'acheteur. 900 emplois sont menacés, un plan social devrait s'enclencher. Et puis Stéphane Le Foll bloque La République En Marche au Mans. 2 ans avant les municipales, il est en passe de prendre la mairie. Il y a de plus en plus de drogues en Europe. C'est donc la conclusion du rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et parmi les stupéfiants qui sont en plein développement, on trouve la cocaïne avec 98 000 saisies en 2016 contre 90 000 l'année précédente. Les explications d'Antoine Marette.
La cocaïne se banalise en Europe. Elle est désormais consommée par 2 300 000 Européens, en particulier des jeunes. Son prix a stagné ces dernières années, environ 60 à 70 euros le gramme, mais sa pureté n'a jamais été aussi élevée, autour de 60% en moyenne. La raison, c'est que l'offre augmente, du coup la cocaïne se démocratise. Laurent Laniel est chercheur à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Il y a une explosion de la production de cocaïne en Colombie qui a augmenté de manière absolument spectaculaire entre 2015 et 2016. Donc il y a dans les pays producteurs une forte disponibilité de cette drogue qui ne demande qu'à être exportée. Il y a plus de cocaïne qui est offerte à un plus grand nombre de gens par un plus grand nombre de dealers qui sont souvent concurrents entre eux. Et donc cela amène la diffusion de cette drogue à des cercles qui auparavant n'y avaient pas vraiment accès. C'est une drogue qui a longtemps été réservée à certaines professions ou à certains niveaux de revenus. Et maintenant, on la rencontre dans toutes les couches de la société, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc démocratisation, certainement, oui.
Et cette démocratisation a des conséquences sur la santé des consommateurs européens. En 2016, 30 000 personnes ont été admises en traitement pour la première fois. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à 2014.
Voilà pour les effets inquiétants de la consommation de drogue au Canada. En revanche, le cannabis, autre drogue douce celle-ci, le cannabis pourrait bientôt être utilisé légalement à des fins récréatives. Les sénateurs canadiens ont approuvé l'idée hier soir avec 52 voix pour, 30 contre, une abstention. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau en avait fait une promesse de campagne. Cette légalisation pourrait être effective avant la fin de l'été et le gouvernement canadien envisage d'encaisser des recettes fiscales sur un marché estimé à plus de 4 milliards d'euros. Et c'est au Canada, plus précisément au Québec, que s'ouvre aujourd'hui le G7 à la Malbaie, petite ville québécoise au bord du fleuve Saint-Laurent. Un G7 sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis qui pourrait se fissurer. La France a prévenu hier d'ailleurs, les 6 puissances sont prêtes à signer un communiqué sans les États-Unis. Emmanuel Macron réunit d'ailleurs les dirigeants européens ce midi avant l'ouverture du sommet. Cette nuit, Donald Trump accusait sur Twitter la France et le Canada d'imposer aux États-Unis, je cite, des droits de douane énormes et de créer des barrières douanières non monétaires. Donald Trump qui sera donc au Québec avant de s'envoler pour Singapour. Le sommet avec Kim Jong-un devrait bien avoir lieu. Les autorités nord-coréennes ont confirmé leur intention de démanteler leur arsenal nucléaire. Elles l'ont en tout cas dit au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le sommet doit avoir lieu mardi prochain. Et dans cet ordre diplomatique mondial, intéressons-nous ce matin de près aux Nations Unies. Son Assemblée Générale se réunit aujourd'hui pour renouveler 5 des 10 membres non permanent du Conseil de sécurité. Les pays désignés y siégeront pour 2 ans à partir du 1er janvier prochain. Sans droit de veto toutefois, réservé aux membres permanents, mais leurs voix sont nécessaires au vote des résolutions et des déclarations communes. 5 sièges sont donc en jeu, partagés par zone géographique. Et pour la zone dite d'Europe occidentale et autres pays, l'Allemagne et la Belgique sont en bonne position, Marco Volter.
Siéger au Conseil de sécurité, c'est avoir le doigt sur le pouls de la politique mondiale. Selon la radio internationale allemande, l'Allemagne ainsi que la Belgique sont quasiment certains de décrocher le nombre de votes nécessaires, soit la majorité des 2/3 à l'Assemblée générale. Leur seul concurrent, Israël, s'étant finalement retiré de la course au mois de mai, la candidature de l'État hébreu aurait dû faire face à la fronde des pays arabes et surmonter la vague de réprobation provoquée par le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et les récents événements à Gaza. Le vote aujourd'hui marque la fin d'un long processus pour les pays candidats. La Belgique a déposé son dossier il y a presque 10 ans et mène une campagne publique depuis déjà 2 ans en prônant son sens du compromis et l'expérience de sa diplomatie à travers le monde, alors que l'Allemagne, qui fait partie des plus gros contributeurs au budget de l'ONU, est vue comme un gardien des institutions internationales mises à rude épreuve par Donald Trump. Au-delà de ses arguments rationnels, tout aura été bon pour décrocher les votes. La mission allemande a encore récemment organisé un tournoi de football et fait venir d'anciens internationaux pour jouer avec les ambassadeurs, pendant que la Belgique a offert une soirée bière et gaufres dans un restaurant de Manhattan. D'après le ministre belge des Affaires étrangères, les 2 ans de campagne auront coûté près de 800 000 euros.
Plus de 900 emplois menacés à Blanquefort en Gironde. Le constructeur automobile Ford avait déjà confirmé son désengagement. Il demande maintenant un plan social pour cette usine qui fabrique des boîtes de vitesse. Ford a prévu de cesser la production dès l'année prochaine, 2019. Le site fermera donc si aucun repreneur ne se présente. Ce que craint Philippe Poutou, ouvrier délégué CGT du site, abasourdi mais combatif.
On est partagé entre l'écœurement, la désillusion, la démoralisation et puis en même temps de la colère, parce que ce sont des annonces qui sont pour nous en tout cas complètement injustifiables. C'est même scandaleux de voir des multinationales faire des profits comme ça. En plus, Ford a reçu de l'aide publique en pagaille ces dernières années, et puis voilà, puis la multinationale décide de partir. Donc, ceci dit, on est un noyau dans l'usine à essayer de mener la bataille, en tout cas de la préparer. On n'a pas dit notre dernier mot, et en tout cas, nous, on est toujours sur cette idée qu'il faut sauver l'usine, qu'il faut sauver les emplois, et que Ford doit respecter ses engagements et ses obligations. Et pour ça, on compte sur l'intervention des pouvoirs publics. Plutôt que de pleurer ou de regretter, comme ils disent en ce moment, il faut qu'ils agissent. Il faut qu'à un moment donné, on stoppe des multinationales comme ça à faire ce qu'elles veulent. Voilà, il faut imposer autre chose. Et la priorité, donc, c'est l'emploi et le social.
Philippe Poutou de la CGT, ancien candidat à la présidentielle, interrogé par Aurélien Accard. L'intersyndicale de la SNCF réaffirme son unité et maintient son calendrier de grève avec une manifestation prévue mardi prochain. 28e jour de grève, par ailleurs, ce vendredi, avec un TER et un Intercité sur 2, 4 TGV et 3 Transiliens sur 5. Des chiffres encore à propos de la réélection de Laurent Berger à la tête du syndicat la CFDT. Réélu donc avec 94% des voix environ contre 98% il y a 4 ans. Stéphane Le Foll devrait devenir le nouveau maire de la ville du Mans d'ici quelques jours. Après le décès du maire emblématique Jean-Claude Boulard en fin de semaine dernière, l'ancien ministre de l'Agriculture vient d'être désigné candidat du groupe socialiste au Conseil municipal du Mans. Et la nouvelle n'a pas été accueillie avec le sourire chez le parti La République En Marche, qui avait de grandes ambitions au projet municipal dans 2 ans. Retour sur ce choix décisif avec Stéphane Robert.
Après le décès de Jean-Claude Boulard, les conseillers municipaux écologistes et communistes s'étaient mis d'accord avec les socialistes. C'est vous qui désignez le candidat, leur avait-il dit. Nous, on suivra votre choix. Et tout s'est joué mercredi soir. Stéphane Le Foll se trouvait face à un tandem formé par la députée socialiste Marietta Caramanli et par le deuxième adjoint Christophe Counil. Et il l'a emporté de justesse par 12 voix contre 9. Le vote pour désigner le nouveau maire la semaine prochaine ne fait donc aucun mystère. Ce sera Stéphane Le Foll. Il faut dire qu'il en avait très envie et qu'il n'est pas un parachuté. Il s'est construit politiquement dans la Sarthe et reste viscéralement attaché à la ville du Mans. Même quand il était ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, il était présent du vendredi au lundi. Jamais il n'a délaissé cet ancrage politique local. Mais pour En Marche et pour Emmanuel Macron, c'est assez embarrassant, car le président nourrissait, dit-on, quelques ambitions pour son actuel secrétaire d'État à l'égalité, Marlène Schiappa. Elle aussi est mancelle, elle aussi est élue au conseil municipal. Elle n'était pas candidate cette fois, mais aurait pu l'être aux élections municipales dans 2 ans, dans le cadre de cette grande offensive que veut lancer En Marche pour s'implanter localement, notamment dans les villes. Avec Stéphane Le Foll qui prend les commandes au Mans, ce sera évidemment très difficile. Car contrairement au maire précédent, Jean-Claude Boulard, Le Foll, lui, s'inscrit dans une opposition résolue à Emmanuel Macron. Ce qui va d'ailleurs placer Marlène Schiappa dans une position inconfortable, car elle va continuer au conseil municipal à siéger aux côtés des socialistes, tout en étant au niveau national secrétaire d'État du gouvernement Macron.
Un Irakien réfugié en France, âgé de 33 ans et soupçonné d'avoir été un cadre du groupe État islamique, a été mis en examen en France en mars dernier. Le parquet de Paris l'a confirmé hier soir. Du glyphosate dans le miel, pour la première fois, des apiculteurs portent plainte contre le fabricant d'herbicides Monsanto Bayer. Le syndicat apicole de l'Aisne l'accuse d'administration de substances nuisibles. L'un de ses adhérents a en fait découvert dans son miel du glyphosate, herbicide controversé, probable cancer cancérogène. Herbicide qu'Emmanuel Macron s'est engagé à proscrire en France d'ici 2021. Et puis la Méditerranée est en train de devenir une mer de plastique, selon le rapport du WWF qui paraît aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. L'Association de protection de la nature dénonce des niveaux records de pollution. Le calme avant l'orage, les éclaircies seront belles ce matin sur l'ensemble du territoire, entrecoupées de quelques nuages. Mais dans l'après-midi, le tonnerre devrait de nouveau gronder selon Météo France, de l'Île-de-France jusqu'en Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne. Les températures sont assez douces ce matin, 17 degrés au Havre, 21 à Lyon-Nice, 22 à Paris et Strasbourg, 23 à Perpignan.